Est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement votre collectif ?
Ouais, alors de base, on est un collectif d'étudiants en travail social de l'ARFRIPS à Lyon, à Vaise. Et justement, ce centre de formation, il était juste en face d'un bidonville occupé par 120 personnes moldaves, roumaines, toutes de culture rome. Et voilà, à la base, donc on est des travailleurs sociaux. Maintenant, ça a un petit peu changé depuis quelques mois. On est aussi beaucoup, beaucoup rejoints par des habitants du quartier, par des amis à nous. Donc c'est plutôt melting pot.
Et alors, pour celles et ceux de nos auditrices fidèles qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé il y a 2-3 mois, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui se passait à l'époque quand vous êtes venus à ce micro ?
Ouais, alors du coup, c'était un bidonville qui était en fait un parking souterrain. C'était avec de gros risques d'incendie. Donc, il y avait eu un procès pour ces familles et qui avaient décidé qu'il y aurait une expulsion à la fin de l'année scolaire. Voilà, nous on était là pour râler, pour dire qu'il fallait des solutions pérennes parce qu'il n'y avait aucune proposition de relogement, juste des propositions d'hébergement. Alors ça c'est pratique parce que du coup ça fait pas de bruit mais ça dure 15 jours. Et du coup ce bidonville il s'est fait expulser non pas à la fin de l'année scolaire mais début août. Donc on a eu le temps, nous, sachant qu'après avoir saisi 1000 fois les pouvoirs publics lyonnais, on n'a toujours pas eu de réponse pour les relogements pérennes, donc on s'est décidé à ouvrir un squat sur les quais de Saône dans le premier, c'est ce qu'on a fait en juillet, et donc du coup ça nous a permis de pouvoir reloger 70 personnes. On a attendu le jour de l'expulsion pour pas faire de vagues, pour pas que ce soit trop vu par la police. On a attendu qu'ils se fassent expulser et on les a relogés dans le bidonville au squat le jour même.
D'accord. Et donc ça c'était début août.
C'était le 3 août.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour ces familles ?
Eh ben, elles se sont fait expulser une deuxième fois en 2 semaines. Parce que, le squat était ouvert, notre squat, on l'a ouvert début juillet, il a posé de problème à personne, jusqu'à ce qu'il y ait des familles de Roms qui s'y installent. Et en l'espace record de 5 jours, on a eu un expert qui est passé, qui a été mandaté par le président de la métropole, qui est aussi le maire de Lyon 4, monsieur Kimmelfeld. On suppose fortement que ce sont les voisins d'à côté, parce que c'est à la frontière du 1er et du 4, donc on suppose que c'est des voisins qui l'ont alerté et que lui a mandaté un expert. Sinon, on voit pas pourquoi il y aurait eu cette demande-là. Enfin bref, en tout cas, ça a donné une mise en péril de 48 heures, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré qu'il y avait un plafond qui menaçait de s'effondrer dans une salle de bain, sachant que cette maison faisait 300 mètres carrés. On aurait pu simplement isoler ces lieux, sachant qu'on avait refait toute la plomberie et toutes les lecs. En fait, on aurait pu faire les travaux nous-mêmes, ou en tout cas isoler 20 mètres carrés sur 300. Mais là, concrètement, c'était une décision politique.
Donc, quand l'expert est appelé, vous le laissez rentrer dans les lieux pour expertiser le bâtiment ?
Alors, logiquement, normalement, on ne laisse pas rentrer la police ou les experts, mais c'est des familles qui parlent très peu français, qui ne sont pas au courant, qui font rapidement confiance, qui ont l'habitude de voir des gens comme nous passer les voir, et du coup, ils ont laissé rentrer l'expert, et voilà quoi.
Et tu avais l'air de dire qu'il y avait une analogie entre le moment où des familles roms sont accueillies dans ce squat et le moment où la métropole met en place une procédure d'expert puis d'expulsion.
Ah ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on dénonce beaucoup parce que pour nous, c'est du racisme pur et dur. Personne est venu nous faire chier pendant un mois et là, en l'espace de 5 jours, il y a le président de la métropole qui demande une expertise, sachant qu'ils sont quand même restés un an et demi dans un parking souterrain inflammable et que tout le monde s'en foutait à ce moment-là. Donc là, pour nous, c'est une décision claire et nette de dire les Roms dans les bidonvilles à l'extérieur de la ville, ça va. Par contre, pas d'inclusion sociale à l'intérieur du premier, quoi.
Y compris dans les squats, quoi.
Y compris dans les squats.
Ok. On en est où, là, depuis ? Donc l'expulsion, la deuxième expulsion a eu lieu mi-août. C'est ça, autour du 15-20 août ?
Ouais, le 15 août.
On en est où depuis ?
Alors depuis, il y a environ 20 personnes, donc c'est-à-dire 4 familles environ, qui ont été relogées directement le jour de l'expulsion pour une période de 15 jours, donc ils vont retourner à la rue après 15 jours. Ils ont été relogés dans une ancienne caserne gérée par l'Armée du Salut à Saint-Priest.
Donc c'est contre ce type de principe que vous vous leviez au tout début du mouvement, en disant qu'il n'y avait que de l'hébergement de court terme qui est proposé.
Mmh.
Et donc c'est ce qu'a proposé au final, sans surprise, la métropole.
Voilà, tout à fait. Et sinon, dans le même temps, le jour de l'expulsion, du coup, il y a environ 30 personnes, donc 7 à 8 familles, qui se sont rendus place Satonnet et qui dorment dans la rue du coup depuis un peu plus de 10 jours. Donc concrètement, ils sont installés tant bien que mal avec ce qu'ils avaient, les bagages qu'ils avaient eu le temps de prendre le jour de l'expulsion, sachant qu'ils n'ont pas du tout pu prendre tout ce qu'ils avaient. Et même, on a eu le droit de passer le lendemain, récupérer quelques affaires, mais en fait, on avait un laps de temps assez long sur la journée qui a été réduit finalement sur une heure. Et du coup, on a pris tout ce qu'on pouvait, mais c'était, il n'y avait que deux personnes qui pouvaient rentrer dans le squat, donc bon, c'était un minimum très insuffisant. Et du coup, ces personnes-là donc dorment dehors, sachant que bah, la place Tatonnet, c'est un lieu hyper fréquenté et par tout type de personnes, et il y a des bars, etc. Du coup, c'est pas forcément un endroit confortable où dormir la nuit dehors. Dans le même temps, il y a ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'il y a tous les voisins, les passants, beaucoup de gens se sont intéressés et sont venus nous parler pour connaître un peu la situation. Et nous, on essaye, les membres du collectif et puis les sympathisants, on essaye d'être présents sur la place justement pour informer toutes les personnes qui passent. Et on a eu le plaisir de voir qu'il y a pas mal de solidarité. On a eu plusieurs personnes qui sont venues pour amener des repas, qui sont venues juste pour nous dire qu'ils avaient appelé les services publics, etc., pour savoir ce qui se passait, pour mettre un petit coup de pression. Et voilà, donc nous, de notre côté, on a continué aussi de faire pression sur toutes les institutions. On est allé partout pour déjà les informer de la situation et demander qu'il se passe quelque chose, qu'on puisse ouvrir un lieu de manière légale, etc. On a fait face un peu à la machine administrative, c'est-à-dire que d'un côté, la mairie du premier nous a dit qu'elle n'avait pas le pouvoir sur ouvrir un lieu, que ce soit gymnase, un lieu abandonné, un bâtiment abandonné qui appartient à la ville, etc.
Sachant que pour replacer pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas bien la place Tatonnet et ce quartier, donc nous, là, on est présentement juste à côté, Radio Canut est juste à côté, et la place Tatonnet est attenante à la mairie du premier. Donc la mairesse et ses adjointes voient tous les jours en allant travailler.
Voilà, ils traversent la place
Tatonnet
en allant droit à la mairie et sans forcément s'arrêter.
Sans s'arrêter.
Après, justement par rapport à ça, il faut dire aussi que on a eu affaire un peu à la police. Ils nous ont demandé d'enlever des bâches, etc. Mais pour l'instant, ils sont pas plus inquiétés que ça. Après, on fait confiance à personne. On a vu dans la presse il y a pas longtemps que la préfecture aurait trouvé une solution, etc. On entend beaucoup de bruit, on s'attend à rien. On est passé à la métropole, on est passé à la préfecture. À chaque fois, on nous dit que soit que ils ont pas de compétences pour gérer ce genre de situation, soit que ils nous disent qu'ils vont transmettre le message, mais voilà, on n'en sait pas plus. Donc pour l'instant, il se passe pas grand chose. Le problème, c'est que ça commence à durer et que nous, qu'on est face à une situation d'urgence énorme et en fait, on fait tout ce qu'on peut, mais on sait pas trop quoi faire. Alors heureusement qu'il y a des associations qui viennent nous aider. On a des gens qui viennent faire la traduction, ce qui est aussi important. Mais voilà, donc malheureusement, enfin, on va être obligé encore de se débrouiller par nous-mêmes et voilà, sans les pouvoirs publics qui sont normalement habilités à gérer ce genre de situation.
Donc l'une des sorties, ça serait de trouver d'abord légalement un bâtiment, autrement se débrouiller autrement. Ça on l'a compris. Et pour les jours qui viennent, les familles qui sont installées là-bas, elles auraient besoin de quoi ? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer là à l'antenne ce soir ?
Eh bien, ouais, déjà, elles ont besoin que, qu'on arrête de les regarder comme des bêtes de foire. Bon, c'est pas un besoin primaire. Non, elles ont besoin d'eau,
de couverture, de pull,
de tout ce qui est lié à l'hygiène, donc papier toilette, serviettes hygiéniques, choses comme ça.
Et surtout d'un toit, en fait, parce que là, elles n'en peuvent plus, elles ne dorment pas, elles sont épuisées. Voilà, ça, là, c'est vraiment terrible. Il commence à faire super froid. Et là, il faut vraiment qu'il y ait des solutions qui se mettent en place. Donc, on peut demander des besoins primaires aussi, de la présence, parce que nous, mine de rien, on est bénévoles, mais on passe toutes nos journées, toutes nos matinées, toutes nos après-midi, toutes nos soirées là-bas. En fait, on fait tout le boulot que les pouvoirs publics ne font pas. Donc, c'est pour ça que la présence, c'est bien aussi. Et surtout, n'hésitez pas à écrire, à appeler la préfecture, la mairie du premier, la mairie de Lyon, pour les secouer un peu, parce que je pense que s'il y a un truc qui les touche, c'est d'avoir mauvaise presse dans la presse et que les habitants soient pas contents. Voilà. C'est ça qui a fait fermer le squat. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça ferait pas ouvrir un gymnase?
Très bien. Bah, je crois qu'on a bien entendu. Est-ce que vous auriez des choses à ajouter, des messages des personnes qui sont là-bas ou des choses plus personnelles à ajouter pour terminer?
Alors oui, on a récolté des petits témoignages, c'est très rapide, on leur a demandé ce qu'ils voulaient qu'on fasse passer ce soir à l'émission. On a eu une personne qui nous a dit que voilà, elle en avait marre que les passants s'arrêtent, les regardent, les prennent en photo comme s'ils étaient presque des animaux, et en fait eux, leur objectif c'est de faire partie de la société, d'être intégrée, que leurs enfants puissent aller à l'école comme tout le monde, de trouver un toit et de créer une nouvelle vie ici. Et que c'est important de prendre conscience de ça et que c'est des humains comme tout le monde, sauf que bah, eux, ils sont dans une situation différente, mais voilà, ils aimeraient bien être qu'on les considère plus. D'un autre côté, on a voilà, des personnes qui demandent à l'aide parce qu'il y a des enfants, on l'a pas dit, mais là, qui dorment dehors depuis le 21 août. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des personnes âgées qui sont malades, qui ont des problèmes divers.
Il y en a beaucoup, hein, c'est la moitié presque.
Ouais. Et donc, voilà, c'est un peu un appel à l'aide aussi qu'ils aimeraient faire passer, qu'on les prenne en compte et qu'on trouve une solution assez rapide. Voilà, j'ai pas trop le souvenir que dans le premier il y ait eu autant de personnes qui restent autant de temps dehors comme ça. Donc nous on relaie à fond ces messages et on est complètement derrière eux. En parallèle, du coup, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui sont passées, qui se sont arrêtées, qui ont amené de la nourriture, qui ont amener des couches, qui nous ont demandé même juste savoir qu'est-ce qui se passait et comment ils pouvaient aider. On a beaucoup de personnes, des gens qui sont aussi investis dans le quartier tout au long de l'année, qui sont aussi venus nous donner un coup de main, et donc ça c'est génial. On se sent soutenus, déjà, moi je parle personnellement, mais aussi les personnes qui dorment dehors nous ont dit qu'elles remerciaient aussi toutes ces personnes-là, ça leur fait chaud au cœur. Et voilà, donc continuons cette solidarité, et c'est ça qui, malheureusement, c'est ça qui fonctionne pour l'instant, mais sans le soutien des institutions.
Ouais, et voilà, nous on est vraiment là pour dénoncer ce qui se passe, et pour nous, je le redis, c'est du racisme, et on pense que plus on est nombreux en fait, moins ce genre de truc, ça peut se reproduire et ça peut continuer. Donc on vous invite à pas vous habituer à voir des gens dormir dans la rue, et d'ailleurs qu'ils soient grands, petits, malades ou pas, dormir une nuit dans la rue, je sais pas si on l'a déjà fait, mais je pense qu'une seule nuit c'est suffisant. Donc là ça fait une semaine, ils en peuvent plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Alors ça peut être pour tout, pour de la présence, pour des dons, pour simplement du soutien. Voilà, on prend tout, et puis voilà. Merci beaucoup.